On a tous vécu un peu la même chose, la double culture, l'éducation en France par des parents asiatiques.
En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
C'est à travers l'expérience des gens qu'on apprend beaucoup, les uns envers les autres.
Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiatique.
Se retrouver autour d'une table, discuter et partager de bons moments.
D'avoir une multiculture, c'est trop bien. D'être multiculturel, d'avoir plein d'origines, c'est trop cool.
Comment nos origines asiatiques influencent-elles notre construction identitaire? Comment transmettre nos cultures à nos enfants? Quelle place pour les Asiatiques dans les médias ou les arts? Comment lutter contre les stéréotypes? Comment valoriser les identités et cultures asiatiques? En tant qu'Asiatique vivant en Occident, ces questions, vous vous les posez peut-être. Moi, en tout cas, je me les pose, parmi beaucoup d'autres. Je suis Mélanie Hong, française d'origine sino-vietnamienne, et vous écoutez Asiatitude. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions personnelles et vos récits de vie intime pour mieux appréhender le rôle de nos cultures dans nos vies. Je vous partage aussi mes conversations avec des artistes, entrepreneurs, experts qui agissent pour une meilleure valorisation des histoires, des talents et des savoir-faire asiatiques. Mon but, planter et arroser des graines d'asianité pour mieux vivre notre multiculturalité. C'est parti !
Ma grand-mère s'appelle Bang Wai. Elle avait un prénom ou un surnom et je l'ai oublié. C'est difficile d'appeler sa grand-mère autre chose que Bang Wai.
Alors ma grand-mère, elle s'appelle Lin Sui Nai. En chinois, dans notre dialecte, on dit Sai Nang. Parce que pour moi, c'est ma grand-mère. J'ai vraiment grandi avec elle.
Moi, j'ai choisi de parler d'une femme qu'on appelle Mamie dans ma famille. Elle est née dans un village près de Jaffna, au Sri Lanka, comme mes parents.
Est-ce que notre rapport à notre identité passe aussi par notre rapport à nos aînés? C'est une question à laquelle je tente de répondre dans cette mini-série de la saison 3, à nos grand-mères asiatiques. Le premier dimanche de chaque mois de mars, c'est la fête des grand-mères en France. Honnêtement, je n'ai jamais fêté cette fête, mais en voyant cette date sur le calendrier, ça m'a donné envie de parler de nos grand-mères asiatiques. Ces grand-mères, elles sont un peu mystérieuses. J'aimerais mieux les comprendre, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'elles ont vécu. Je me demande qui elles étaient avant d'être nos grand-mères. Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Certainement mille vies. Et puis quel rôle est-ce qu'elles jouent dans nos vies? Elles ont connu l'exil de leur pays natal, elles se sont construites à partir de ce déracinement. Mais elles n'en parlent pas, ou très peu. Dans ce premier épisode de la mini-série, je me lance et je vous raconte mes grand-mères maternelles et paternelles, Mémé et Ama. Je connais très mal mes grands-mères. Cette relation, grands-parents, petit-enfant, je ne la connais pas du tout. En fait, je la découvre à l'âge adulte, à travers ce que vit mon fils et ses grands-parents aujourd'hui. Et je trouve ça génial qu'ils puissent connaître un lien que moi, je n'ai pas connu. Je n'ai pas trop de tristesse par rapport à ça, c'est la vie, c'est passé comme ça. Mais j'éprouve de la tendresse envers mes grands-mères, même si je les ai très peu connues. Ma grand-mère maternelle, Lien Tran, que j'appelais Mémé, était vietnamienne. Elle est née au Vietnam et elle a émigré au Laos quand elle était enfant. Enfin, je crois. D'après ma mère, elle a été adoptée par une famille très riche à Savannakhet, au Laos. C'était le maire de la ville ou un notable important. Elle est ensuite devenue bijoutière et avec mon grand-père, aussi vietnamien immigré du Laos, il tenait une bijouterie dans le quartier français de Savannakhet. La famille était très aisée, avec des chauffeurs, nourrices, domestiques. Ça jusqu'à leur départ du Laos. Parce que, bien sûr, lorsqu'ils sont partis du Laos, en passant par la Thaïlande, puis arrivés en France, comme beaucoup d'immigrés à l'époque, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont été totalement déclassés, ils n'avaient plus rien, ils étaient devenus pauvres. Ils ne connaissaient pas le pays, ils ne connaissaient pas la langue, et ils vivaient dans un petit studio à Paris. Ma grand-mère, elle a vécu dans ce petit studio parisien une vingtaine d'années, jusqu'à son décès en 96. Moi, j'avais 7 ans. Le souvenir que j'ai d'elle, c'est celui d'une femme menue, discrète, avec un sourire doux. Ma mère m'a dit qu'elle était venue me rendre visite le jour de ma naissance à la maternité. Je me dis qu'elle devait tenir à nous, ses petits-enfants. Malgré qu'on ne se soit jamais parlé, elle venait aux fêtes de famille, au Nouvel An, aux anniversaires. Elle s'asseyait au bord du canapé à côté de mon grand-père et je me souviens qu'elle refusait poliment les verres ou la nourriture qu'on lui tendait. Elle nous regardait jouer en souriant dans le salon, et avec mon grand frère, dès qu'elle arrivait, on devait la saluer, poliment en vietnamien. On disait « Chao ba », je sais pas si j'ai l'accent encore une fois. C'était les seuls mots que je savais dire avec « Kamen, merci ». Et je pense que ma mère voulait montrer à sa mère qu'elle nous avait appris un peu de vietnamien. Quand on lui disait bonjour, ma grand-mère, qu'on appelait Mémé, elle nous sentait les cheveux ou la nuque, je sais pas trop. Je trouvais ça bizarre à l'époque, je me demandais pourquoi elle me sentait au lieu de me faire un bisou. Mais je crois que c'est culturel. Après, on repartait jouer. Et on repartait avec le sentiment du devoir accompli. On avait dit bonjour à Mémé. Mémé ne parlait pas français et moi, je ne parlais pas vietnamien. Avec la barrière de la langue, on n'a jamais pu communiquer plus que ces quelques mots. Si je devais lui dire quelque chose aujourd'hui, je pense que ce serait que j'aurais aimé mieux la connaître. Connaître son histoire, connaître sa vie, sa personne. Et aussi, j'aimerais la remercier d'avoir traversé tout ce qu'elle a traversé pour que ma mère soit en sécurité. Un jour, j'aimerais le raconter en retraçant les bouts d'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est grâce à elle que ma mère a pu arriver en France, et donc, dans un sens, que je suis là. Et pour ça, je lui en suis très reconnaissante. Ma grand-mère paternelle, elle, est toujours avec nous. Je l'appelle Ama. Elle est née en Chine et a émigré au Laos. C'est au Laos que mon père et ses frères et sœurs sont nés. Comme ma mémé, je n'ai jamais vraiment parlé à Ama et je ne connais rien d'elle. Enfin, jusqu'en 2020, il y a 4 ans, où j'ai appris les premières bribes de sa vie. Quand j'ai écrit le podcast Mira, qui est une fiction qui raconte l'immigration d'une famille asiatique en France, que j'ai écrite inspirée de ma propre histoire, j'ai interrogé mon père pour la première fois sur sa mère. C'était un bon prétexte. Il m'a alors appris qu'avant le départ du Laos pour la France, elle était commerçante ambulante. Elle vivait à la campagne, près de Vientiane, au Laos. Il y avait beaucoup de champs tout autour de chez eux, et les enfants y jouaient tous les jours. C'était très joyeux à la maison. Les grands frères et sœurs s'occupaient des plus petits, quand les parents partaient en vadrouille pour le travail. Mon père m'a dit que c'était une femme à fort caractère. Ça, je le savais, parce que je le voyais. Mais aussi qu'elle était bienveillante. Qu'elle avait choisi son mari, mon grand-père, que je n'ai pas connu, par amour. Et aussi qu'elle avait pour valeur principale la famille. Avec les différents conflits en Asie, les événements dans sa vie, elle a été séparée de sa famille très jeune et elle ne voulait pas que ses enfants subissent le même destin. Alors elle a toujours répété à mon père et ses frères et sœurs de rester unis. Mais comme avec ma grand-mère vietnamienne, on n'a jamais discuté ensemble. Elle ne parle pas français et je ne parle pas cantonais. De mon enfance, j'ai l'image d'une femme toujours entourée de ses nombreux enfants, mes oncles, mes tantes, mes cousins-cousines qui, eux, parlent chinois cantonais. Une femme qui parle beaucoup et fort, et qui rit aussi beaucoup et fort, qui joue aux cartes, qui fait à manger, quelqu'un de très bon vivant. Mais depuis quelques années, ça a changé. Ma grand-mère a eu un AVC, depuis elle ne parle plus. Je suis pas très proche de ma famille paternelle, mais je pense que c'est très dur pour tout le monde, parce que comme elle n'a jamais appris ni à lire ni à écrire, elle ne peut plus communiquer. Quand j'ai commencé à créer des podcasts, il y a 5-6 ans, je me disais qu'il fallait que je l'enregistre. Mais je n'ai pas eu le temps, ou plutôt, je n'ai pas osé, parce que je n'avais jamais créé de lien et je ne savais pas comment commencer. Et maintenant, c'est trop tard. Ça, c'est un regret que j'ai. Alors, si vous en avez encore l'occasion et que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, moi, je vous encourage vraiment à le faire. J'aimerais un jour découvrir les pièces du puzzle familial auprès d'autres membres de ma famille, si j'en ai l'occasion. Mais j'accepte aussi que certains pans de l'histoire resteront des mystères à jamais. Dans d'autres familles, ça se passe autrement. Petmani, Anna, Mélanie ont partagé beaucoup de moments et créé de belles relations avec leur grand-mère. Vous pouvez écouter leur récit dans les autres épisodes de la mini-série à nos grand-mères asiatiques.